RFI, il est 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Présenté par Victor Moria. Bonsoir Victor.
Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous. La guerre interne n'est pas finie au Front populaire ivoirien. Trois jours après le couronnement de la ligne Pascal Affine-Guessan au congrès du parti, les dissidents se font entendre et donnent rendez-vous à la fin du mois devant la justice. L'inquiétude grandit au Sénégal à cinq jours des élections législatives. L'appel à venger ses partisans victimes d'agressions du Premier ministre Ousmane Sonko scandalise la classe politique et inquiète la société civile. Faire oublier le passé, faire à nouveau de l'Afrique une puissance économique mondiale, c'est le mantra du forum Makutano qui s'ouvre demain à Kinshasa. Et puis le dossier de cette édition, après la victoire écrasante de son parti aux législatives, le nouveau Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam, officiellement nommé en attendant la passation de pouvoir. Retour sur cette secousse politique dans ce journal avec le journaliste mauricien Yvan Martial. Et puis nous terminerons avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui reprend demain. En Côte d'Ivoire, malgré le mandat donné ce week-end à Pascal Affine-Guessan pour diriger le parti et porter ses couleurs à la présidentielle de 2025, les dissensions sont toujours bien présentes au sein du Front populaire ivoirien. Le courant Valeurs et Démocratie dénonce les décisions du Congrès du FPI. Plusieurs de ses membres ont été suspendus du parti. Parmi eux, Issiaka Sangaré, il dénonce le manque de dialogue en interne.
Nous, au niveau du courant, nous ne reconnaissons pas les décisions issues de ces assises-là. Donc pour nous, Pascal Affine-Guessan n'est pas en l'état actuel des choses, président du Front populaire ivoirien, il n'est pas non plus le candidat pour l'élection de 2025. Le Congrès s'est quand même tenu dans un contexte difficile. On a pu constater qu'il y a eu beaucoup de difficultés à mobiliser. Il n'y a pas eu de tentative pour unir les différentes approches divergentes. D'autre part, il y a eu des décisions qui vont renforcer les divisions en interne. Donc des décisions telles que la suspension de certains camarades, parce qu'ils sont membres du courant, ou d'autres simplement parce qu'ils ont saisi le tribunal pour faire en sorte que leurs droits soient pris en compte au niveau donc du parti. Pour ces différentes raisons-là, les procédures qui ont été violées, nous considérons que ce congrès est entaché de beaucoup d'irrégularités.
Issiaka Sangaré au micro de Binta Diagne et le courant Valeurs et Démocratie s'en remet à la justice qui doit se prononcer le 28 novembre sur ses contentieux internes au FPI. La polémique au Sénégal n'en finit pas de monter à cinq jours des élections législatives. Les déclarations d'Ousmane Sonko appelant ses partisans à se venger des agressions menées selon lui par des opposants en campagne ont fait l'effet d'une déflagration dans la société sénégalaise car ses propos ravivent les craintes de violences électorales après les dizaines de morts lors des manifestations avant la présidentielle. À Dakar, notre envoyée spéciale permanente, Léa Lisa Westerhoff.
Dans cette publication, Ousmane Sonko va même jusqu'à réclamer que le maire de Dakar, à la tête de la coalition Sam Sakadou, soit interdit de faire campagne. Selon le Premier ministre candidat à ces législatives, la coalition de l'opposition s'est rendue responsable dans plusieurs villes du pays d'agressions de militants de son parti, le PASTEF. Il appelle donc ses partisans à répondre au nom d'un droit légitime, je cite, à la riposte. Une déclaration qui a fait bondir l'opposition, mais pas seulement. Dans les rangs de la société civile et du parti au pouvoir, nombreux sont ceux qui appellent le Premier ministre à revenir à la raison. Ces déclarations d'Ousmane Sonko révèlent en tout cas la violence qui sous-tend la campagne. Après ce nouvel accrochage hier entre militants du PASTEF et militants de la coalition de Barthélemy Diaz à Saint-Louis, dans le nord du pays, selon plusieurs témoins, des membres de la caravane de Sam Sakadou auraient blessé des sympathisants du PASTEF à coups de couteau. À la mi-journée, le gouverneur de Saint-Louis annonçait en tout cas l'interpellation de 81 personnes, tout en invitant les acteurs politiques une nouvelle fois à bannir la violence. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Sam Sakadou qui dénonce un appel au meurtre lancé par le Premier ministre, une tentative de museler la démocratie et d'installer un climat de terreur, écrit la coalition d'opposition sur les réseaux sociaux. Son leader, le maire de Dakar, a pris la parole tout à l'heure. Barthélemy Diaz s'est exprimé devant ses sympathisants, encore sous le choc et dans un climat de tension. Le reportage est signé Gwendal Lavina.
Ce devait être une conférence de presse au siège de la coalition Samou Sakadou, mais sa tête de liste s'est retrouvée barricadée à son domicile. Barthélemy Diaz, le maire de Dakar, a donc fait venir journalistes et militants jusqu'à lui. Malgré la musique, la tension est palpable. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre car un peu plus tôt dans l'après-midi, des militants du PASTEF, dont le meeting avait lieu dans la zone, ont tenté de s'approcher. Marie Chantal habite le quartier.
Vraiment, c'est déplorable. Je ne m'y attendais pas. Il pouvait bien venir faire sa campagne, venir avec sa caravane, sans pour autant semer toute cette zizanie. On a reçu des cailloux, du gaz lacrymogène à la maison. On ne pouvait plus respirer. Ça, c'est inadmissible.
Un sentiment partagé par ce sympathisant de la coalition Samou Sakadou qui en veut à Ousmane Sonko et lui reproche d'attiser la haine et la violence.
Quand on est Premier ministre, il y a des discours qu'on ne doit pas tenir. Sonko doit tenir des discours de vérité. Un Premier ministre a une obligation de parler correctement. Le courage qu'on porte, lui, il ne l'a pas.
Longuement applaudi, Barthélémy Dias a dénoncé le comportement d'Ousmane Sonko et l'arrestation de plusieurs membres de son service de sécurité. Puis il a lancé un appel à ses électeurs.
Évitez surtout d'accepter de verser dans le jeu de la manipulation, dans le jeu de la violence et dans le jeu de la terreur. Nous allons ensemble, main dans la main, construire ce pays, construire l'avenir de nos enfants dans la paix et la sérénité.
Pour les trois derniers jours de campagne, Barthélémy Dias sillonnera la ville de Dakar afin de convaincre les derniers indécis. Gwendal Avina, Dakar, RFI.
Et pour les autres candidats, l'inquiétude est forte également. L'ancien Premier ministre et candidat de la coalition, Jamal Djarin, appelle au calme et à la retenue. Il est de notre responsabilité individuelle et collective de bannir à jamais les affrontements physiques dans l'espace politique, explique-t-il. Au Tchad, à cette semaine des élections locales et législatives, au moins 6 candidatures du MPS, le parti de l'ancien président Idriss Déby, aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur Mahamat Idriss Déby, ont été rejetées par l'agence chargée d'organiser les scrutins. Selon les lettres de rejet consultées par RFI, dont l'ange a confirmé l'authenticité, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zenbada, fait partie des déboutés. Sollicité par nos soins, le porte-parole du parti, Sadou Brahn, indique que le MPS procède actuellement à un travail de vérification et qui se tiendra aux côtés des candidats non retenus pour des recours éventuels. Au Bénin, le dossier d'Olivier Bocco et Oswald Omeki est toujours en instruction à la Cour de répression des infractions économiques, la CRIET. Depuis leur inculpation le 1er octobre dernier pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics, ils comparaissent devant la chambre d'instruction et les trois juges ont organisé ce lundi les premières confrontations. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Les confrontations se sont déroulées dans le secret du cabinet des juges de la commission. Les inculpés ont fait face chacun à 3 personnes, une à une, jamais 2 en même temps. Selon nos informations, Olivier Bocco est passé le premier devant les juges. Il a été confronté à ses 2 co-accusés, l'ancien ministre des Sports et le comptable de son beau-frère, puis avec le colonel, chef de la garde républicaine. L'officier supérieur n'est pas poursuivi. Selon la déclaration du procureur au début de l'affaire, c'est lui que les deux personnalités ont approché avec une proposition d'argent dans le but d'organiser un coup d'État. 3 confrontations également pour Oswald Robecki avec Olivier Bocco, le comptable et le colonel. Les confrontations ont duré plusieurs heures avec des pauses. Il s'agit de leur 3e passage devant la commission, toujours à huis clos. Une source bien informée rapporte qu'il n'y a pas eu d'aveu. Les avocats multiplient les recours contre l'ordonnance de placement sous mandat de dépôt de leurs clients. On apprend qu'ils ont formulé un pourvoi en cassation contre le rejet de la CRIET. L'instruction va vers la fin, confie une autre source. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
En Centrafrique, c'est au tour des avocats de la défense de prendre la parole dans le procès Ndélé 2 qui se tient à la Cour pénale spéciale de Bangui. 4 anciens combattants du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, le FPRC, sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les faits se seraient déroulés entre mars et avril 2020 dans la ville de Ndélé, à l'est du pays. Plusieurs dizaines de civils auraient été tués en raison des différends au sein du FRPC qui contrôlait alors la ville. Les avocats de la défense demandent la relaxe de leurs clients. À Bangui, la correspondance est signée Rolf-Steve Domialeux.
Dans des combinaisons orange, entourés de leurs avocats, les accusés Khalid Azor, Charfadine Moussa, Ontar Ahmad et Oscar Wurdjono Drogba se sont montrés sereins au moment de la plaidoirie. En prenant la parole, Maître Marius Bagati, l'un des avocats de la défense, souligne que le parquet et l'accusation n'ont pas apporté des preuves convaincantes.
Le procureur spécial a seulement soulevé 2 éléments de preuve, notamment les témoignages et deuxièmement son téléphone qui est borné. Et là, nous avons scruté dans les pièces du dossier. Nous avons vu effectivement que les témoignages sur lesquels le parquet spécial se fonde ne sont pas crédibles. Les conséquences, c'est l'acquittement.
En se basant sur le dossier de Charfadine Moussa, l'un des accusés, Maître Fleury Otto a relevé quelques incohérences qui, selon lui, caractérisent ce procès.
Au point même de l'élément légal de l'infraction, il y a des problèmes. 1. Il n'était pas sur les lieux. 2. Il a été arrêté 20 jours plus tard. Un rapport d'expertise a été diligenté à la demande du cabinet d'instruction. Un travail a été fait en laboratoire et il est démontré scientifiquement que ce brassard ne lui appartient pas. Monsieur Moussa Charfadine mérite acquittement.
Jeudi dernier, lors de son réquisitoire, le parquet spécial avait requis des peines allant de 20 à 30 ans de prison contre les accusés. Alors que les débats sont clôturés, l'affaire sera mise en délibéré ce 14 novembre. Rolf Esteve, Domerle, Bangui, RFI.
Faire de l'Afrique un centre économique mondial en dépit des souffrances du passé, c'est l'ambition du Forum économique Makutano qui s'ouvre demain à Kinshasa en République démocratique du Congo. Pour sa 10e édition, le Forum accueille plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques dont des membres du gouvernement. Le président Tshisekedi est d'ailleurs attendu pour la journée d'ouverture. Cette année, la thématique c'est The New Deal, comprendre, faire bouger les lignes. Yves Kabongo est un homme d'affaires congolais et participe au Forum.
On ne veut plus être un centre de négoce comme ça l'a été pendant la période de l'esclavage et la période de la colonisation. Nous voulons faire partie des créateurs de richesses d'un côté et puis nous voulons faire partie du club pour pouvoir détenir une certaine richesse partagée et apporter notre contribution au niveau international, mais que l'Afrique puisse compter vraiment parmi les structures d'investissement, les structures de création de valeur, les structures de transformation en somme. C'est un énorme défi en regardant Nous venons quand même de 400 ans d'esclavage et d'un siècle de colonisation. Donc il faut transformer un peu l'état d'esprit des Africains qui, à un moment donné, nous nous étions emprisonnés conceptuellement dans la dimension « on ne peut que recevoir ». Nous nous mettons en position de commencer aussi à donner. Et pour cela, il faut une réflexion qui soit bien aiguisée, une réflexion qui soit bien dotée pour pouvoir donner pas seulement aux entrepreneurs aujourd'hui, mais aux entrepreneurs d'avenir, des voisins, et moyens de pouvoir participer au développement économique non seulement du pays, mais de la sous-région et du continent en entièreté.
Yves Kabongo avec Pauline Azidi à Kinshasa.
Port-Louis, 93.2 FM.
Pravin Jugnauth a démissionné. Navin Rengolam est désormais le nouveau Premier ministre mauricien. Après une victoire écrasante aux législatives, 60 sièges à zéro, ce vétéran de la politique de 77 ans s'apprête à retrouver un poste qu'il avait laissé en 2014 et doit désormais former son gouvernement. C'est le dossier d'Afrique Soir qui commence avec le papier de notre correspondant à Port-Louis, Abdoulaye Rally.
La tradition démocratique a été respectée avec célérité. 24 heures après sa cuisante défaite, Pravin Jugnauth a présenté sa démission au président de la République de Maurice, autorité symbolique du système démocratique du pays. L'ex-premier ministre a réuni son dernier conseil des ministres dans la discrétion avant de quitter ses fonctions. Des proches de Pravin Jugnauth commencent également à démissionner, notamment le commissaire de police soupçonné d'avoir étouffé des enquêtes et harcelé l'opposition. Entre-temps, Navin Rengoulam, auteur d'une victoire écrasante de 60-0 à la tête de l'Alliance du Changement, s'apprête à faire son grand retour au pouvoir après 3 mandats par le passé. Ce retour est pour lui une revanche historique car il intervient après 10 années difficiles marquées par une interdiction de voyager et 11 poursuites dans divers dossiers dont 10 ont été abandonnées. Le nouveau Premier ministre prépare maintenant la formation de son gouvernement et un meeting de remerciement pour ses partisans devant l'hôtel du gouvernement dans la capitale. Abdoulaye Rally, Port-Louis, RFI.
Et pour revenir sur cette victoire totale d'Alliance pour le Changement, on écoute Yvan Martial, il est journaliste mauricien. Il était dans Afrique Midi au micro de Nicolas Sûr. Il nous expliquait que l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth a été victime d'une forme de lassitude et d'usure du pouvoir. Écoutez.
Certes, pendant ces 10 ans que son parti était au pouvoir, il a quand même réalisé plein de choses en faveur de la population. Mais vous savez, autour du pouvoir, il y a des choses qui se passent, qui déplaisent et qui fait que il y a une sorte d'accumulation de frustration. Et finalement, l'électorat souhaite à un certain moment un changement de régime en espérant que ça remettra les choses un peu au clair.
Il y a eu notamment un scandale pendant la campagne, celui des écoutes téléphoniques de personnalités qui ont fuité. La réponse des autorités a été de couper les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, ça a été déterminant dans le vote des Mauriciens ?
Ça a été un coup brutal qui a vraiment causé un choc, d'autant plus que la censure devait aller jusqu'à après les élections. c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a dû avoir des réactions, surtout du milieu des affaires, parce que toute l'économie était paralysée, qui fait que le gouvernement a eu à reculer, et ça fait créer un mauvais effet.
La campagne de Pravin Jugnauth aurait pourtant bien pu commencer. Il y avait eu quelques semaines avant les élections l'annonce de l'accord avec le Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel des Chagos. Pourquoi finalement ça n'aura pas suffi pour les électeurs mauriciens?
Alors le gouvernement sortant a voulu appâter l'électorat en faisant miroiter que cet accord allait nous rapporter des milliards de dollars chaque année. Mais comme dit le proverbe mauricien, ne vendons pas l'œuf qui est encore dans le ventre de la poule. Il faut que cet accord soit ratifié par le Parlement britannique, ce qui est loin d'être acquis. Il faut que les États-Unis ratifient cet accord. Avec Trump, ça devient encore plus difficile.
La participation à ces législatives tournerait autour de 80%. On a un Premier ministre qui a reconnu sa défaite immédiatement. Ça veut tout de même dire que la démocratie mauricienne reste en grande forme, quoi qu'on en dise.
Oui, sauf que ces élections absolument libres et indépendantes nous donnent, une fois de plus, un Parlement sans opposition. Ça fait la cinquième fois depuis l'indépendance que cette situation se présente à Maurice. Et il y a un dicton à Maurice qui disait toujours « il y a un bon Dieu pour l'île Maurice ». Eh bien, je demande à bon Dieu là de ne pas s'endormir et de continuer à veiller sur le peuple mauricien.
Le journaliste mauricien Yvan Martial, ancien rédacteur en chef du quotidien L'Express, il était l'invité de Nicolas Sûr à la mi-journée. La situation toujours tendue au Mozambique, un mois après les élections contestées remportées par le Frelimo. L'opposition du candidat arrivé deuxième, Venancio Mondlane, multiplie les appels à manifester. Il demande aux Mozambicains de se lancer dans 3 jours de grève générale pour protester contre la fraude. Les défilés doivent se concentrer sur les capitales de province, les ports et les frontières. Alors dans le centre-ville de Maputo, la capitale administrative, les commerçants ont tous fermé boutique. Amélie Tulé.
Sur l'avenue Karl Marx, il n'y a pas âme qui vive. Olga Raimundo y vend des sodas. Elle gagne environ 200 médicaïches par jour, moins de 3 euros. Mais aujourd'hui encore, elle doit fermer boutique.
J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai des enfants. Et si on me tire dessus? Les manifestations nous coûtent à nous qui vendons dans la rue. Mais c'est peut-être aussi une bonne chose. Le prix de la nourriture a augmenté. On ne peut pas envoyer nos enfants à l'université. Les choses basiques coûtent cher.
Julieta Domingos vend des tickets de loterie. Depuis le début de la contestation, elle a perdu près de 2000 métikaïches, soit 30 euros, près du tiers de son loyer, ce qui n'empêche pas son engagement dans la contestation.
Ça fait presque 15 jours que je ne travaille pas. Moi, je ne gagne de l'argent que si je sors. Ils disent qu'il faut des sacrifices pour que les choses aillent mieux. Alors nous devons manifester. Moi, je crois qu'il va y avoir du changement.
Le nez sous un capot, Moïsech, 20 ans, répare des voitures. Son garage, c'est la rue Agostinho Neto, car il n'a pas les moyens d'avoir un local et ne trouve pas d'emploi.
En vérité, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent, mais je soutiens le mouvement. Ça en vaut la peine, parce que ça fait 50 ans que l'on souffre. On est fatigué de vivre depuis 49 ans avec un seul parti qui ne fait rien. On ne vit pas, on survit.
D'après le Centre pour l'intégrité publique, une organisation de la société civile, la contestation électorale a déjà coûté au Mozambique près de 360 millions d'euros.
Amélie Tulé. On termine ce journal avec du sport et Abidjan accueillera à partir de demain 2 nouveaux matchs éliminatoires pour la CAN 2025. Bénin-Nigeria et Guinée-RDC. Des matchs dont les équipes n'avaient pas de stade aux normes et qui doivent donc être délocalisés. Mais c'est pour le plus grand bonheur des Ivoiriens qui ont l'occasion de voir le Nigérian Ademola Lookman et le Guinéen Serou Guirassy, 2 grands favoris pour le ballon d'or africain. Mais pour les Abidjanais, le choix est déjà fait. Écoutez le reportage de Yuen Gourlet.
Dans les rues d'Abidjan, un nom fait presque l'unanimité.
Lookman, c'est lui, je vote.
Le Nigérian a été finaliste de la dernière CAN en Côte d'Ivoire et auteur d'un impressionnant triplé lors de la finale de la Ligue Europa remportée 3-0 par son équipe, l'Atalanta Bergame, face au Bayer Leverkusen qui était pourtant invaincu depuis le début de la saison. Des performances qui ont permis au Nigérian d'être le seul Africain nommé pour le Ballon d'Or et de terminer 14e de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Pour Claver, il n'y a pas photo.
Il est performant, il est bon, il marque beaucoup. Il marque beaucoup, puis c'est un bon joueur. Quand il est sur le terrain, j'ai confiance. Quand même quand je parie, je gagne avec lui.
Jeudi, Lookman, il joue au Félicia, vous allez aller le voir ou pas?
Waouh, je vais au stade avec ma petite famille pour regarder Lookman, mon super joueur.
Face au Nigérian, un sérieux candidat tout de même, le Guinéen Serou Guirassy, serial buteur avec Stuttgart la saison passée, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga avec 28 réalisations et auteur d'un gros début de saison avec le Borussia Dortmund. Jesus est fan du joueur.
Il est bon, il est en forme, il est en confiance. Un attaquant, quand tu es en forme et puis tu es en confiance, tu marques des buts.
C'est le genre de joueur qui vous donne envie d'aller au stade?
Oui. Il est bon, mais il marque des buts. Il n'a pas besoin de deux occasions à mettre au moins un. Il est efficace.
Est-ce que son efficacité sera suffisante pour convaincre le jury du Ballon d'Or africain? Réponse, le 16 décembre. Youen Gourlay, Abidjan, RFI.
RFI, 22h50, temps universel. Le dossier Afrique Économie au Congo, Brazzaville, qui s'apprête à lancer les travaux de construction d'un nouveau barrage, celui de Sunda, dans le sud du pays. Le but est d'augmenter l'offre d'électricité dans un pays qui connaît d'importantes coupures et surtout un faible taux d'industrialisation. Le reportage est signé Loïcia Martial.
La rivière Sunda abritera ce nouveau barrage dont le coup d'envoi des travaux de construction sera donné en janvier 2025. Il est situé dans le Kwilu, la région qui abrite Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Thierry Mungala est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
C'est un barrage. On a un coût qui est élevé, qui peut tourner autour d'environ 1300 milliards de francs CFA. La production attendue est quand même comprise entre 600 et 800 mégawatts.
Les travaux s'étaleront sur 5 ans et seront réalisés par l'entreprise chinoise dénommée China Overseas Company Limited. Quant au mode de financement en cette période de restructuration des dettes africaines, l'analyste économique Alphonse Ndongo a bien une idée.
C'est un préfinancement chinois et je crois que ça doit s'asseoir sur le modèle qu'on appelle Built Operate and Transfer, qui veut dire tout simplement que vous construisez, vous exploitez et cela vous permet de vous faire rembourser selon une période de concession que l'État va certainement trouver entre lui et l'opérateur chinois.
Officiellement, le Congo produit déjà 720 MW, dont une bonne partie se perdrait dans le réseau de distribution qui serait mal entretenu selon les spécialistes. La production de Sunda s'ajoutera à cette puissance. À qui va-t-elle servir? Alphonse Ndongo répond.
Cela va certainement booster l'offre de fourniture d'énergie à des ménages, mais aussi dans un contexte où on parle d'industrialisation, surtout à l'orée de la ZELECAF, c'est-à-dire le marché de libre-échange. Il faut bien que le Congo ait des propositions en matière d'industrie à proposer.
Une analyse partagée par Mermance Babunga de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs.
Nous avons bon espoir qu'avec la construction du barrage de Sunda, le pays va attirer de gros industriels qui viendront vraiment investir dans le pays et cela va participer à créer des emplois que les jeunes attendent.
Le Congo produit déjà plus que ses besoins en consommation locale. Cette différence s'explique par l'exportation d'une partie de son électricité et un réseau électrique pas suffisamment développé pour desservir l'ensemble de la population. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Fidèle au poste, fidèle à sa chronique culture, bien sûr, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, notre ambianceur international. Bonsoir Hervé.
Rebonsoir Victor, bonsoir à tous.
La fin de l'année approche et vous nous avez déniché pour nous des sorties afro-urbaines qu'il faut écouter absolument en 2024, à commencer par la chanteuse congolaise Sarah Kalume, qui sortira un EP le 29 novembre prochain.
Oui, exactement, c'est Sarah Kalume qui a dévoilé la chanson Nakupenda, le premier extrait de son EP sobrement intitulé Sarah Kalume, apparaître le 29 novembre prochain. Nakupenda est une fusion de sonorités congolaises et de rythmes afro-modernes chantés en lingala et en français, à l'image des titres que l'on retrouvera dans son projet qui parlera principalement d'amour.
Ce qui m'arrive, tu me fais perdre la tête, dans mes pensées, y'a que toi, je n'en peux plus. Ce qui m'ont aimé poni, c'est pas un coup d'hasard. T'es quelqu'un de très spécial, mais sois mon bébé na kupenda, yonde ngana linga, osala mes côtés pour toujours. Je serai prête à mourir for you, bébé, yonde ngana linga, osala mes côtés pour toujours.
seul à mes côtés pour toujours. Yes, je l'aime et love you. Baby, si tu doutes, sache que moi je t'aime pour tes vrais. Yeah. Je suis peut-être pas la première personne.
Sarah Kalumé, bien sûr, du Congo Kinshasa, place désormais à la chanteuse, compositrice et romancière guyanaise, Saina Manot.
Oui, Saina Manot qui enfile donc sa casquette de chanteuse pour le titre Respecté Mo, un morceau d'à peine 1 minute et 48 secondes qui est extrait de son EP Baté, un projet que la Guyanaise a voulu très visuel. Alors, il faut préciser que ce n'est que la première partie de ce projet. En attendant le deuxième volet, voici Respecté Mo, donc, dans lequel vous allez reconnaître le sample d'une chanson de Coolio. Je vous laisse deviner laquelle.
Pas fait semblant, pas invité, moi. N'y a-t-il pas invité, moi. Moi, s'il m'a pas vu, n'est qu'il vient de moi. J'y respecte, moi. Respecte-moi. J'suis pas ton plan B, j'suis pas ta route secours. T'es fille à pas couillant, j'ai vu ton jeu en plein jour. Moi, s'il m'a pas vu, n'est qu'il vient de moi. J'y respecte, moi. S'il te plaît, ouais, moi. Pas fait semblant, pas invité, moi. N'y a-t-il pas invité, moi. Respecte-moi, je sais qui je suis, ce que je fais, ce que je vaux. Et tu sais ce que je vaux et quel est mon niveau. Petite fille gentille, tu t'es dit ça passe crème. À présent mon problème, s'il te plaît, ouais, oh, oh. Pas fait semblant, pas invité, moi. N'y a-t-il pas invité, moi. Moi aussi m'a pas vu, ni qu'il vient de magie. Respecte. Tout je savais, la Guyane m'a sorti, oh. Mais pas bien temps pour pédier. Tout je savais, à plus de chambé, tout.
Et ça fait plaisir d'entendre ce sample de Coolio, Gangsta's Paradise.
Eh oui, vous avez l'oreille, mon cher Victor.
Saina Manot, Respecté Mo sur RFI. Direction maintenant Niamey, au Niger, où le rappeur Barakina cartonne avec sa chanson Go Go Go.
Oui, le fils du fleuve Niger, Barakina, Bawan Allah, tout simplement appelé Barakina, donc, a convié ses compatriotes du groupe MDM à le rejoindre sur le titre Go Go Go, qui a très rapidement été plébiscité par le public et salué par la critique. Entre rap, Touareg, rythme traditionnel du Sahel et sonorité afro-pop, tous les ingrédients sont réunis pour que Go 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 décroche le titre de la chanson de l'année au Niger.
Go go go, mon ami, faut go go go. Y'a plus le temps de do do do. Never give up, faut go go go. Go go go. Kasuba kasoro dama yangi daje komotochi. Karkadam, kirkwe no gano. Kasu wanti ye wuya ba abunda zaka ke gida. Karkadam, irkwe nukanu. Raiwata yo akwa wuya gata sedu kunkunchi. Karkadam, irkwe nukanu. Moroge mesa maya bamu abunda za mushadadi. Karkadam.
Go, 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 Barakina. Pour conclure votre chronique culture, Hervé, on termine avec un duo surprenant entre la star indienne de la chanson Kanika Kapoor et le chanteur nigérian Timmy Boy.
Oui, Kanika Kapoor qui est au sommet de son art en tant qu'artiste, fashionista ou entrepreneuse avec son propre label Bajao. Elle a décidé d'aller à la conquête du continent africain en s'entourant de la nouvelle scène Afrobeat, d'où la collaboration audacieuse avec le nigérian Timmy Boy. Ça donne le titre Matak Matak, un mélange harmonieux de l'afropop et du punjabi indien qui fait déjà des vagues sur les réseaux sociaux. On écoute.
Merci Hervé Mandina d'avoir égayé notre soirée sur dans Afrique Soir sur RFI, Radio France Internationale. C'est la fin d'Afrique Soir pour aujourd'hui. Merci à Jonathan Brady d'avoir réalisé ces émissions. Merci à Simon Bulbaudin à l'édition et également à Sabine Mélé à la rédaction en chef. On se quitte en musique pour encore quelques secondes avant un nouveau journal à minuit ici à Paris.
Priorité Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
prévention et prise en charge de la pneumonie pour protéger les enfants.
Jeudi,
journée mondiale du diabète, mieux lutter contre cette épidémie mondiale.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.